Give me the text. La question, c'était, d'une part, pourquoi est-ce que à Shavuot, on dit que c'est Matan Toratenu. Ce qui est important, c'est pas tellement le don, ce qui est important, c'est qu'on l'ait accepté. Ça devrait être Kabbalat Toratenu. Et puis, surtout, ce qui nous intéresse, ce qui m'intéressait ici, c'était le statut de la Torah de Rabbi Akiva. Ce qu'on avait vu. Bonsoir, Thierry. Pourquoi il est parti, Shmuel, on ne sait pas. Donc, quel est le statut de... Qu'est-ce que c'est exactement la Torah de Rabbi Akiva, dans la mesure où Rabbi Akiva, il a des enseignements que Moshe Rabbeinu ne connaissait pas. Donc on avait un problème pour savoir... Merci. On avait un problème pour savoir comment c'était possible... Si toute la Torah elle a passé par Moshe Rabbeinu, toute la Torah qu'on a reçue, et on a enseigné à Moshe Rabbeinu toute la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est que cette Torah que Moshe Rabbeinu ne connaissait pas, au point de ce quand il le Midrash raconte que quand Hachem a montré à Moshe Rabbeinu toutes les générations, et il a vu aussi la génération de Rabbi Akiva. Il y a un autre Chazal qui dit que quand Moshe Rabbeinu est monté pour recevoir la Torah, il a trouvé Akadosh Baruch Hu en train d'attacher les tagim, les petites couronnes sur les lettres. Sur certaines des lettres dans Sefer Torah, il y a des petites couronnes. C'est-à-dire trois traits, comme un chine. Et Moshe Rabbeinu a demandé à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu ne donnes pas tout de suite la Torah? Qu'est-ce qui t'en empêche? Il lui a dit, il faut que je mette ces couronnes parce qu'un jour viendra où quelqu'un qui s'appellera Akiva Ben Yosef va être Doresh, il va interpréter ces petites couronnes qui sont sur les lettres, il va en déduire Tile Tilim, c'est-à-dire des montagnes de Halakhot. Donc il va rendre significatives ces petites couronnes. Alors du coup, comme vous savez, Moshe Rabbeinu a dit « Montre-le-moi », il lui a montré Rabbi Akiva, et Moshe Rabbeinu il a voulu, pour qu'il le lui montre, Moshe Rabbeinu s'est retrouvé à l'école de Rabbi Akiva, il ne comprenait rien, il était totalement désolé, jusqu'à ce qu'en réponse à une question d'un élève, Rabbi Akiva a répondu que c'était une halakha le Moshe Missinaï. Halakha que Moshe Rabbeinu a trouvé au Sinaï, a reçu au Sinaï. Alors, c'est écrit qu'il a été rassuré, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on avait déjà commencé ça. Je vais reprendre un tout petit peu. On avait vu que le lien du Klal Israël avec Akadosh Baruch Hu, qui se fait par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dans ce lien, son statut, en quelque sorte, c'est d'être le maître. C'est lui le maître de la Torah. Au sens où il représente les Bnei Israël et les Bnei Israël reçoivent, c'est eux qui reçoivent la Torah, et tout dépend effectivement de ceux qui reçoivent la Torah. Si ça correspond à un enseignement du Maharal, le Maharal dit Shem mekablim kovim etzem amatan Torah. Ce sont ceux qui reçoivent la Torah qui fixent le don de la Torah, qui déterminent le don de la Torah. Et comment est-ce que, dit le Maharal, comment est-ce qu'on sait cela, comment est-ce que c'est exprimé? C'est exprimé par le fait que Moshe Rabbeinu a ajouté un jour, de préparation à la Torah. Hachem avait dit au Bnei Israël, vous allez vous préparer pour le don de la Torah, Hayom ou Machar, aujourd'hui et demain. Donc deux jours. Et Moshe Rabbeinu, il a aussi Yom Echad Midato. Moshe Rabbeinu a pris l'initiative d'ajouter un jour supplémentaire de préparation. Donc cette situation un peu incroyable, où Hachem en quelque sorte dit à Moshe Rabbeinu, aujourd'hui je vais donner la Torah. Et Moshe Rabbeinu dit, non, nous on s'est fait encore un jour de préparation, donc s'il te plaît, tu la donnes demain. Et donc, ça veut dire, après ce que le Maharal vient dire ici, qu'il y a déjà dans la Torah écrite, qui est donnée là, à ce moment-là, il y a déjà une dimension de Torah chez Baal Peh, c'est-à-dire, la Torah chez Baal Peh, c'est justement la Torah qui est produite par les hommes. Le contenu, enfin, ou l'idée même de Torah chez Baal Peh, de la Torah orale, c'est que ce que les hommes ont reçu, ils vont le renouveler, ils vont faire des chidushim, et ils vont le comprendre évidemment avec leur capacité de compréhension, leur capacité humaine de compréhension. Et tout cela, tout ce travail-là, toute cette traduction de ce renouvellement, tout ça, hein, ça devient la Torah. Tout ça, c'est devenu Torah. Donc on voit que la Torah, hein, elle est effectivement déterminée par ceux qui la reçoivent. C'est ça le sens de Osif Yom Echad Midato, Moshe Rabbeinu a ajouté un jour de sa propre initiative. C'est ceux qui reçoivent la Torah ont ajouté un jour de préparation supplémentaire, de telle sorte que, qu'est-ce que c'était la préparation supplémentaire? À quoi est-ce qu'il fallait se préparer en fait? Qu'est-ce que c'est se préparer à recevoir la Torah? Recevoir la Torah, comment est-ce qu'il faudrait dire ça, hein? Je pense qu'on peut dire, ça n'est possible que si on est prêt à tout. On est prêt à tout remettre en question. Tout ce que je crois savoir, même les choses qui me paraissent absolument certaines, le don de la Torah doit être bouleversant. Et donc il fallait se préparer à, en quelque sorte, s'annihiler devant Hachem, si on peut parler comme ça, tout en étant là pour recevoir. Donc, ajouter un jour supplémentaire, on veut se préparer encore plus, c'est-à-dire on veut être encore plus réceptif, encore moins écran, en quelque sorte, encore moins empêcher la Torah d'entrer en nous. Notre condition matérielle, d'accord, empêche la Torah de nous pénétrer complètement. Et donc c'est un travail sur soi, en fait, pour qu'on empêche encore moins la Torah de nous pénétrer. Donc Moshe Rabbeinu est la figure qui reçoit, au sens où c'est lui le maître de la Torah. Finalement, c'est lui qui est non seulement celui qui la reçoit, cette Torah, mais quasiment il est très fortement associé et il est le maître même du don de la Torah, puisque c'est lui qui conditionne le don. C'est lui qui décide quand ce sera donné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en quelque sorte, Moshe Rabbeinu a un accès à la source, si on peut parler comme ça, de la Torah. Donc, le don de la Torah était la Kabbalah de la Torah, l'acceptation de la Torah était une acceptation sans limite, sans fin. Si la Torah avait été donnée comme on donne en général quelque chose, on aurait ce qu'on nous a donné et rien de plus. Si quelqu'un vous donne quelque chose, vous avez ce qu'on vous a donné, vous n'avez rien de plus. Mais étant donné que les Bnei Israël, par le biais de Moshe Rabbeinu, sont devenus les maîtres du don de la Torah, ça veut dire que maîtres du don, donc, ils ne sont pas simplement dans la position de celui qui reçoit, mais aussi dans la position de celui qui donne. Donc ils ont accès à la source dans le monde d'en haut, en quelque sorte, à la source infinie de Torah. Et de ce fait, puisque c'est eux qui le décident, en quelque sorte, de ce fait, le don de la Torah n'est pas limité à ce qui a été effectivement donné. Parce qu'ils sont à la source, en fait. Ils ont un lien avec la Torah, pas seulement avec la Torah qui leur a été donnée, mais avec la source de la Torah. Donc, il faut imaginer la Torah comme quelque chose d'infini, dont on nous a donné une partie. Et normalement, si ça fonctionnait comme les dons ordinaires, on n'aurait que ce qui nous a été donné. Mais là, il se trouve que puisque Moshe Rabbeinu, le clan Israël ici, est à la fois à la source et à la réception, en quelque sorte, ça veut dire qu'il fait le lien, il y a un lien concret entre ce qui a été effectivement donné et la source. Il n'y a pas eu de coupure. Donner, ça n'a pas consisté à couper de la source et en donner une partie. Le lien reste entre la source et ce qui a été concrètement donné. La Torah de Rabbi Akiva, hein, donc la possibilité qu'a eu Rabbi Akiva d'aller dévoiler des profondeurs de la Torah qui n'avaient pas été dévoilées à Moshe Rabbeinu. Bien que Moshe Rabbeinu ne sache pas du tout ce que Rabbi Akiva raconte, il est à l'école de Rabbi Akiva, il ne comprend rien. Il ne sait pas de quoi il parle. Mais dans les paroles de Rabbi Akiva, ces paroles de Rabbi Akiva s'appellent Torah Moshe. Pourquoi? Parce que ce que Rabbi Akiva a pu dire, il n'a pu le dire que parce que Moshe a fait le lien, en quelque sorte, entre le bas et le haut, entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et il a fait en sorte que les Bnei Israël ont encore accès non seulement à ce qui a été donné, mais ils ont accès encore à la Torah, même dans la Torah telle qu'elle n'a pas été donnée, la Torah telle qu'elle était au ciel, si vous voulez. Donc la possibilité d'accéder à cette racine, d'accéder à la source de ce qui nous a été donné, et de comprendre la Torah du point de vue du donneur, et pas seulement du point de vue du récepteur. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a inventé, en quelque sorte.
J'ai pas vraiment compris pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu est également dans la position du donneur. La source.
D'ordinaire, quand quelqu'un reçoit, il n'est pas le maître de ce qui lui est donné. Il peut recevoir ou dire je ne veux pas recevoir, ou je veux recevoir la moitié, etc. Mais il n'est pas le maître de ce qui lui est donné, il ne peut pas Il n'a pas de prise pour en recevoir plus, disons. Ce qu'on veut bien lui donner, il l'a. Et ce que le Maharal a expliqué, c'est que les Bnei Israël, par l'entremise de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu donc, en fait, sont dans la position d'être à la fois celui qui donne et celui qui reçoit. Ce lien entre ce qui donne et ce qui reçoit, enfin celui qui donne et celui qui reçoit, c'est Moshe Rabbeinu. Si vous voulez, ça ressemble beaucoup à ce dont on avait parlé plusieurs fois, en particulier avant Pessah, vous le répétez. Quand vous regardez le mot mitzvah, même tzadik, vav, he, vous pouvez lire ce mot mitzvah, mitzavé. Il faut mettre les voyelles pour lire mitzavé, c'est-à-dire celui qui donne l'ordre. Vous pouvez le lire mitzvah, c'est-à-dire l'ordre. Et on peut aussi dire mitzuvé, celui qui reçoit l'ordre. Donc c'est ça la force d'une mitzvah. C'est que dans la mitzvah, ce geste-là lie celui qui donne, celui qui reçoit. C'est pas que celui qui donne, il lâche quelque chose en quelque sorte. La mitzvah relie. Là, c'est la même chose. Moshe Rabbeinu, il est comme la mitzvah de ce point de vue-là. Ou le Klal Yisrael est comme la mitzvah. Moshe Rabbeinu a fait qu'il y a un lien entre la Torah telle qu'elle a été donnée, telle qu'on l'a reçue, et la Torah telle qu'elle était avant d'être donnée, c'est-à-dire en fait cette Torah infinie qui reste infinie bien qu'on en ait donné une partie au... Quand je vois qu'on nous a donné une partie de la Torah. Il a donné la Torah qu'il voulait nous donner. Mais du coup, grâce à ce travail que Moshe Rabbeinu a fait, et comment est-ce qu'on sait que Moshe Rabbeinu a fait ce travail-là, le Maharal dit, c'est ça la traduction que Moshe Rabbeinu a ajoutée un jour. Hachem a dit on se prépare en deux jours, ça veut dire au bout de deux jours on est prêt. Quel sens ça pouvait bien avoir d'ajouter un jour supplémentaire? On est déjà prêt. C'est encore un coup de brosse à reluire. C'est pas de ça qu'il s'agit évidemment. Donc le Maharal dit qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qui est-ce qui a dit, si vous préférez, il faut expliquer ça comme ça. Lorsqu'Hachem nous donne la Torah, et il nous dit, préparez-vous. Alors nous faisons le travail de préparation. Mais quand il nous dit, vous préparez sur deux jours, il nous dit comment on se prépare, quelque part, on n'a rien fait, nous. On n'a fait qu'obéir à cela aussi. Mais on n'a aucune initiative dans... Donc on est les récepteurs, et on n'a aucune initiative, puisque même la préparation, elle nous a été commandée. Si j'étais libre de me préparer, si on avait pris l'initiative de se préparer, je me dis, je vais vous donner la Torah, ok, on dit, ben, on va se préparer comme ci, comme ça. Alors on aurait été partie prenante à ce don de la Torah. Mais si c'est Hachem qui nous dit combien de temps ça prend et quasiment comment on se prépare, ben, on y est quasiment pour rien, on n'a fait qu'obéir. Et en quelque sorte, Moshe Rabbeinu, il a voulu reprendre la main, en quelque sorte. Il a voulu que les hommes soient partie prenante dans cette affaire. Ça ressemble à une situation dont on a souvent parlé. Tous les korbanotes sont des korbanotes qui sont la résultante de ce qu'on appelle kedusha de paix. C'est une kedusha, le korban, il a une kedusha, l'animal. Vous allez dans votre étable, vous prenez un agneau, et cet agneau-là, il va servir pour le vœu que vous avez fait, ou bien parce que j'ai envie de le donner, etc. Et vous dites, cet animal-là, il va aller sur le misbeh. Il acquiert, il sera une ola, un shlamim, ça. Il acquiert sa kedusha de par votre parole. Ça s'appelle kedusha de paix. C'est parce que j'ai parlé en ce sens, qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Il y a une exception. L'exception, c'est le Bechor. Alors, vous avez sûrement chez vous une brebis qui n'a encore jamais mis bas. Quand elle mettra bas pour la première fois, écoutez bien, ça peut servir, l'animal qu'elle mettra bas, enfin l'agneau qu'elle mettra au monde la première fois, enfin, qui sera le premier, il a un din de Bechor. C'est un premier né. Et il doit être approché comme corban à ce titre-là. Mais lui, sa kedusha, elle vient du fait qu'il est né le premier. Il est le premier à avoir passé par les voies basses. Il est né par les voies basses. C'est ça, la kedusha, elle lui est venue de ce passage. Si on avait fait une césarienne, il n'aurait pas eu cette kedusha. La kedusha, elle vient du fait qu'il a été le premier à passer par les voies basses. Et c'est pas la résultante de ma parole. Je n'ai rien à dire. Et la Torah, elle dit, il y a une mitzvah. Lorsque la brebis va mettre bas, tu tiendras à côté de la brebis, et quand l'agneau sera né, tu diras, Hareze Bechor. Cet animal, il est Bechor. Et si tu ne le dis pas, il sera Bechor quand même. Alors à quoi on joue? On joue à ça. On joue à reprendre la main. C'est-à-dire, on veut que ce soit une initiative humaine. La Torah, elle te dit, même dans ce cas-là qui est où tu n'y es pour rien, voilà, tu dois quand même reprendre la main, en quelque sorte, rediriger. Moshe Rabbeinu voulait que les Bnei Israël soient partie prenante dans le don de la Torah. C'est pas simplement il avait envie qu'on soit partie prenante pour qu'on puisse le dire. Et du coup, la façon dont il a fait en sorte que nous soyons partie prenante, il a dit, nous prenons, nous, l'initiative d'un jour supplémentaire de préparation. Quel sens ça a? Ça n'a pas tellement d'importance. Quel sens ça a dans le... Quand tu dis « Arezé Bechor », on peut dire que ça n'a pas de sens non plus. Il est Bechor même si tu ne le dis pas. C'est néanmoins une façon de reprendre la main. Et cette reprise en main, en quelque sorte, elle ne voulait pas dire simplement on veut être dans la réception, on veut être partie prenante. Puisque ce que Moshe Rabbeinu a fait, c'est qu'il a dit à la place d'Hachem, Hachem a dit 2 jours, il a dit moi je dis 3. Hachem a accepté. C'est une des 3 choses que Moshe Rabbeinu a fait de sa propre initiative. L'autre la plus célèbre, c'est qu'il a brisé l'étable. Hachem lui a dit, Hachem Kochacha, tu as bien fait. Là aussi, Hachem a dit, Hachem Kochacha, tu as bien fait, c'est bien. C'était tellement important que ça vienne des hommes qu'Hachem, évidemment, ne lui a rien dit. S'il lui avait dit, ça aurait de nouveau, on aurait fait 3 jours, mais comme 2 jours, ça ne changerait rien. Il fallait rien dire et que l'homme puisse prendre cette initiative. Et prenant l'initiative, il ne se met pas dans la position de celui qui se purifie un jour supplémentaire, de celui qui se donne l'ordre de se purifier un jour supplémentaire. Donc il prend la posture d'Hachem, si vous voulez. Donc il fait partie, il devient celui qui donne la Torah. Ça, c'est ça l'histoire. Donc puisqu'il est du côté du don de la Torah, il ouvre par cette démarche une possibilité aux hommes d'avoir un accès non pas seulement à la Torah donnée mais à la Torah dans sa totalité, à la Torah telle qu'elle était même avant d'être donnée, telle qu'elle reste en quelque sorte. C'est infini, donc il ne s'est rien passé du point de vue de la Torah. Nous on a reçu la Torah, mais ça n'a rien enlevé à la Torah telle qu'elle était là-haut. Donc on a accès à cette Torah là mais elle n'a pas été donnée aux hommes.
Si Moshe Rabbeinu n'avait pas fait, ça n'aurait pas été la Torah.
Si, elle aurait été Torah, seulement, elle aurait, pour nous, on aurait été...
On aurait été des exécutants.
Voilà, si vous voulez, on se serait retrouvé un peu dans la situation, quelque chose se représente à un niveau différent, la situation dont on a déjà aussi parlé, on répète beaucoup de choses. À la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu a écrit un Sefer Torah, et il l'a donné à la tribu de Lévi, je vous ai raconté déjà. Oui, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, ceux qui ont déjà oublié, pour moi. Donc, je répète. Donc, il a donné le Sefer Torah à la tribu de Lévi. Les autres tribus ont crié au scandale. Ils ont refusé. Ils ont dit, il n'est pas question que tu le donnes qu'à la tribu de Lévi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit, bah sinon la tribu de Lévi nous dira, la Torah elle nous a été donnée à nous et pas à vous. La tribu de Lévi, elle ne va pas dire qu'elle est la seule concernée par la Torah. La Torah, c'est marqué, bah, d'abord Hachem, elle bénit Israël, c'est pas marqué, elle bénit Lévi seulement. Et ça, ça ne va pas changer. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ils vont nous dire, la Torah, elle nous a été donnée à nous. Ce que les Israélites ont dit, c'est la Torah, elle nous a été, ils nous diront, la Torah nous a été donnée à nous, c'est nous qui devons interpréter la Torah, c'est nous qui devons produire les Chidushim, c'est nous qui devons développer les choses, à partir du travail que nous aurons fait, nous élaborerons la halakha, et nous vous donnerons la halakha. Nous donnerons le balos de la halakha. Moshe Rabbeinu a dit, enfin, enfin je vois que vous avez compris quelque chose de la Torah. Jusqu'alors, je ne savais pas, j'avais l'impression que vous ne compreniez rien à la Torah. Parce que les Bnei Israël avaient l'air d'être face à la Torah comme ce que vous avez suggéré, c'est-à-dire des, ben voilà, des exécutants de la Torah. Et la Torah, et bien sûr, il y a des choses à faire, mais la grandeur de la Torah, c'est que les hommes vont produire la parole divine, en fait. Les hommes vont produire la Torah. C'est ce que Moshe leur a dit. Enfin, je vois que vous avez compris quelque chose à la Torah, c'est-à-dire que vous voulez produire la Torah. Pas seulement avoir le Shulchan Aruch, si vous voulez, le dalos, le code. Voilà ce qu'il faut faire dans telle et telle circonstance, etc. Vous voulez le travailler les choses, élaborer les choses.
Excusez-moi, ce que je vais vous dire justement, enfin, si j'ai bien compris, c'est que ça n'est de la Torah que dans la mesure où on peut la travailler, où on peut...
Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons, oui, grâce à ce Midrash qui nous dit que Moshe Rabbeinu Osif, on comprend ce qu'est la Torah. Sans cet enseignement-là, on n'aurait pas su. Non, non, mais aujourd'hui, il n'y a pas de Sanhedrin, il est là pour décider. Si, bien sûr, il y a des décisions, mais le problème n'est pas, c'est pas un problème de décision, ça. Le problème est un problème de développement de la Torah. Et les chidushim qui sont faits, même s'ils n'ont pas d'application concrète, immédiate, etc., ou même si c'est le développement, ça n'a pas d'importance. Développer la Torah, c'est pas seulement savoir quoi faire dans telle et telle circonstance. C'est en quelque sorte avoir en bouche la parole divine. Produire de la Torah. Et c'est ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a pu avoir accès à des choses qui n'ont pas été données parce qu'il y avait une continuité entre ce qui a été donné et ce qui n'a pas été donné. Et c'est Moshe Rabbeinu quand il dit « Alachal Moshe Mitsinaï », ça vient du travail que Moshe Rabbeinu a fait au Sinaï qui nous a donné accès à cette Torah. Et donc c'est pas une Torah... Je ne peux pas vous, à celui qui lui a posé la question, je ne peux pas argumenter en disant, voilà, tu vois, ici il y a ce pasouk-là, il y a ce pasouk-là, il y a Gzera Shava, il y a un Kalva Chomer, il y a telle et telle forme de déduction, etc. Ce n'est pas de cet ordre-là. Puisque ce n'est pas la Torah qui a été donnée. Et donc, c'est une forme d'accès direct. C'est comme, en quelque sorte, c'est de la Torah orale, mais qui a le caractère de la Torah écrite. Celle qui nous est venue directement par la névoie de Moshe.
Ça veut dire qu'en fait, l'accès, comment dire ça, à
femme a pu découvrir des choses dans cette Torah qu'elle ne comprenait pas parce qu'il avait lui un accès direct.
Oui, comment est-ce que tout le monde a cet accès direct grâce à Moshe Rabbeinu? Mais on n'est pas tous Rabbi Akiva.
On ne peut pas dire qu'il a lu la Torah autrement et qu'il y a vu ce que Moshe Rabbeinu n'avait pas vu.
Non, mais il a lu, par exemple, cette histoire, elle est liée avec les tagim. Mm-hmm. Vous savez, ces tagim, c'est les mêmes sur toutes les lettres sur lesquelles il y a des tagim. Donc tu vas rendre significatif quelque chose qui n'est même pas, qui n'est pas singulier pour... C'est pas qu'il y a un tag spécial sur le Aïn et un tag spécial sur le Zaïn. Et c'est pas que le tag qu'il y a, la couronne qu'il y a sur le Zaïn, dans tel et tel mot, elle est différente de la couronne qu'il y a sur le Zaïn dans un autre mot. C'est tout le temps les mêmes couronnes. Donc quelque part, avec quoi il est Doresh ici? Tili et Tilim chez la Lachot. Des montagnes. De la route. Ou comment? Ça s'articule pas. C'est pas dans les lettres. C'est pas dans le blanc des lettres. Mais bon, dans le blanc, la corruption noire. Non, c'est justement dans ces couronnes-là qui sont trois petits traits. Ce sont les mêmes. Et donc, ça veut dire qu'il y a une ouverture fabuleuse. Et c'est dans cette ouverture que Rabbi Akiva est allé chercher en quelque sorte ce dont il nous dit que ça s'appelle Alakha la Moshe Missinaï.
On les a conservés, ces chidushim de Rabbi Akiva?
Il y a des choses qu'on connaît de Rabbi Akiva, mais on ne connaît pas, on n'a pas du tout une liste, justement, c'est très dommage si on peut parler comme ça, mais il y a plein de choses qui sont comme ça. On dit, tu as dit à Pessah, voilà, Yam Laku, 250 makot. Oui, alors Rabbi Akiva. 250 makot. On ne peut pas en citer une seule. Ce n'est pas marqué dans la Torah une seule des makot à la Yam. Les 10 makot en Égypte, on les connaît. Mais il y en avait 250 à la Yam, on en cite zéro. On ne les connaît pas. Alors, dans le Midrash, on dit il a frappé le cavalier est tombé, le cheval est tombé. Enfin, ce n'est pas marqué dans la Torah tout ça, que c'est ça les makot.
On a des exemples de.
Oui, dans la Halakha Moshe Missinaï, on en a. Non, on ne nous dit jamais c'est sur ce tag-là ou sur celui-là, etc. On ne dit même pas que les Halakha Moshe Missinaï viennent du tag. Mais c'est la Gemara qui met les deux choses côte à côte. La Gemara, elle dit que ce qui a impressionné Moshe Rabbeinu, c'est cette histoire des tagim, que Hachem est encore en train d'ajouter quelque chose pour Rabbi Akiva. C'est un truc pour lui. Ça veut dire pour lui. Bon, c'est pour lui parce que Hachem dit, il y a quelqu'un qui va être capable de venir. C'est comme une maman, elle fait tel et tel plat pour cet enfant-là, et tel plat pour cet enfant-là, et tel autre. Celui-là, il est sucré, l'autre, il est salé, celui-là, il faut du poivré, etc. La mère, elle fait pour ça. Mon cher Abbé, quand je me crois, il y a la Torah, tout le monde est là, et tout le monde a accès à cette Torah. Puis il y a un truc qui met spécialement, pourquoi, pour qui, comment? Il va venir Rabbi Akiva. Le plus grand maître de la Torah chez Baal Peh. C'est lui. Donc, le plus grand maître.
Ça
m'est complètement égal, ça me gêne. Que ce soit bien clair. Ouais. Vas-y.
Hormis le fait que l'enseignement, donc, c'est de renouveler, que chacun doit renouveler la Torah, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, ce qu'a fait Rabbi Akiva, c'est que pour lui.
Il n'y a que lui qui est capable de le faire.
Et il l'a fait que pour lui.
Non, parce que des Halakha Moshe Missinaï, il y en a plein, là, Gemara.
Oui, mais
ils ne sont pas toutes de lui, mais... Il y a des choses que nous ne connaissons pas, mais qui sont ou dans la Kabbalah, ou dans d'autres choses. Il y a tout un travail sur les otiotes de Rabbi Akiva en Kabbalah, etc., par exemple.
Enfin, c'est surtout le principe de pouvoir travailler, oui. Le douchim, etc. C'est... Mais là-dessus, je voulais justement, il me semble que, si je ne me trompe pas, vous avez dit que les premières lettres qui ont été brisées comportaient tout. Mm-hmm. Si nous ne les avions pas brisées, nous n'aurions pas eu à faire ce travail. Mm. On n'avait pas de niveau. Tout ce travail-là, on voit bien qu'il est nécessaire, ça fait
Vous savez, quand on a reçu, on avait expliqué avant Pessah que pour entendre la parole de Moshe Rabbeinu, qui est la nevoie de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah, pour l'entendre, il fallait être prophète. Après ce Midrash-là, tout le clan d'Israël était prophète. Donc on n'avait pas... On avait le niveau de prophétie. Chez Rabbi Akiva, ce n'est pas de la prophétie, c'est la Chokhmah. Parce qu'on est passé au moment du deuxième Beth Amikdash, on a terminé avec la phase prophétie et on entre dans la phase Chokhmah, sagesse. Et la Gemara dit que le Chacham Adif Minavi. Le Chacham, il est supérieur au prophète.
L'histoire, si je peux parler comme ça, du Hébiel, c'est un prétexte.
Ça, de toute manière, c'est vrai. Oui, c'est un prétexte. Mais pourquoi vous dites ça maintenant?
Parce qu'on n'avait pas le niveau. Parce que
Non, on avait un niveau. C'est un autre niveau. C'est pas un niveau Chokhmah. Oui, ça n'a pas tenu, mais c'est aussi la faute de Moshe, ça. Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, l'er red qui shichet amcha. C'est le rêve rave qui a entraîné les Bnei Israël, et c'est Moshe qui a, contre la volonté d'Hachem, accepté le rêve rave. Hachem lui dit, descends, il était au Sinaï, descends, tu ne peux plus rester à ce niveau-là, parce que ton peuple s'est fourvoyé. Vous savez bien qu'Hachem, Moshe a dit quoi, mon peuple, c'est le tien. Non, c'est le tien, c'est le Erev Rav.
Oui, mais là aussi, justement, il y en a qui disent que Moshe Rabbeinu, il a voulu ramener, justement, de son initiative, comme il a fait de rajouter un troisième jour, il a pensé que c'était ça qu'il devait faire.
Oui, sans doute. Mais c'est possible que, lui, de son point de vue, c'était justifié, mais c'était faux. Dans l'absolu, c'était faux. D'une certaine manière, là-dessus, on doit dire... Révérence gardée, mais Moshe s'est trompé. Mais c'est important que Moshe n'est pas infaillible.
Comment on peut s'assurer que cette Torah Shebe'ah qui est le grand moteur en fait du judaïsme, comme vous disiez, soit s'assurer, c'est-à-dire on ait l'assurance par je ne sais quelle autorité, par contre, que cette Torah Shebe'ah qui a été donc développé depuis 3000 ans, soit en phase avec la source de la Torah.
Je vous le dis.
Excusez-moi.
Ben, ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas, bien sûr.
Vous gobez tout ce que je vous raconte, ça vous ne le gobez pas. Pas de ce. On ne sait pas. C'est notre émouna, c'est une émouna de Chachamim, que les Chachamim, avec tout leur système de discussion, de réflexion sur de peser les mots, etc., qu'ils ne se sont pas trompés. Et même s'ils se sont trompés, peu importe, je veux dire, c'est comme
question,
ça.
La question, je pense, n'est pas limitée à la Talmud et à la Gemara. Tout à l'heure, on a parlé avant du Midrash. Shmuel disait ses difficultés de comprendre certains enseignements du Midrash, de la Kabbale également. Tout ça fait partie, quelque part aussi, de la Torah chez les Alpes.
Mm-hmm.
Donc, la question se pose. Quoi,
oui.
Est-ce que nous sommes vraiment. Voilà, bien sûr qu'il faut les mouna, parce que sinon...
Si vous voulez, je ne peux pas vous dire autrement. Moi, je sais que c'est comme ça parce que mon maître me l'a dit. Mon père et mon maître me l'ont dit. Et c'est comme ça qu'on remonte. Il n'y a pas d'autre moyen. Comment voulez-vous le faire? C'est pour ça que je vous dis. Vous avez une autre référence ou vous allez devoir me prendre moi comme référence, hein? C'est pas terrible, mais bon. Non, il n'y a pas d'autre solution. Vous savez, c'est toujours comme ça. Vous allez chez un médecin, qui vous dit qu'il est un médecin? Ses pères vous ont dit qu'il était médecin. Les gens qui sont d'autres médecins, un peu plus âgés que lui, ne l'étaient, ont dit qu'il était médecin. Et bon, voilà, c'est comme ça.
Quelque part, on a quand même beaucoup perdu après cette période des prophètes, parce puisque là, le prophète...
Non, c'est une autre chose. On avait une autre... Le prophète, il... Oui, mais le prophète, il ne fabriquait pas de la Torah comme le Chacham. Lui, il disait les choses. D'abord, il ne pouvait pas inventer. Il ne pouvait pas donner une nouvelle halakha. Il ne pouvait même pas développer réellement.
Bien sûr, c'était évident.
C'était pas évident. Hein. Mais il y avait des prophètes. Vous savez, la raison pour laquelle Yona n'a pas voulu aller faire les remontrances. Yona, c'est Jonas pour les intimes. Oui. Yona n'a pas voulu aller à Nineveh pour faire des remontrances aux gens de Nineveh pour qu'ils fassent tshuva. Pourquoi? Parce qu'il savait que les Bnei Israël, ils ont eu tous ces prophètes, ces prophétesses. Ils n'ont pas fait tshuva. Et lui, il a pensé, il avait raison. Je vais aller à Nineveh, je vais leur dire de faire tshuva, ils vont faire tshuva. Et ça va être une accusation contre le clan d'Israël. Donc il a essayé de fuir. Ça n'a pas marché, mais il a essayé de fuir à cause de ça. Et là, on a vu à Purim que Hazal disent que quand Ahasvéros a fait passer son sceau à Aman, c'était plus efficace que les prophéties de tous les prophètes. Les Bnéissels ont fait tshuva. Et que tous les prophètes ont servi de ce point de vue-là à rien, du point de vue de l'efficacité. Mais ils ont produit autre chose, ils nous ont enseigné d'autres choses.
Si vous voulez montrer, il y a la notion ici que Moshe, parce qu'il a décidé que l'Israël allait se préparer un jour de plus, c'est ça qui fait que...
Ça, c'est une façon de dire, concrètement, que Moshe Rabbeinu a permis aux Bnei Israël de reprendre la main en quelque sorte, de ne pas être que les récepteurs de ce qu'Hachem veut bien leur donner, mais d'avoir accès à plus que ce qui, est vraiment, ce qui a vraiment été donné. Donc évidemment Hachem nous a permis d'avoir accès à ça, s'il ne l'avait pas permis, on n'aurait pas.
Donc c'est positif en fait.
Tout à fait positif, oui.
Tandis qu'Abraham, bon, Hachem lui a dit d'aller sacrifier Israël, il est parti tout le matin. Il ne s'est pas dit, bon, bien me préparer pour que je puisse participer dans la mitzvah. Je vais faire ce qu'il m'a dit, je vais partir le plus rapidement possible.
Ça, c'est une mitzvah. Là-bas, ce n'est pas une mitzvah.
Une mitzvah, c'est juste le commandement d'Hachem.
Oui, c'est juste. C'est seulement ça. Non, mais là-bas, ce n'était pas un commandement seulement. On était en train de nous donner la Torah. Avraham Avinu, ce n'était pas un don de Torah, c'était une mitzvah bien particulière. Un geste qui lui a été prescrit. Pour nous aussi, on a une mitzvah, par exemple, de Zrizim Magdimim, c'est-à-dire il y a une mitzvah de faire les choses aussitôt que possible. Par exemple, les gens font attention le huitième jour de la Mila, de le faire tôt le matin. Si on n'a pas des raisons tout à fait particulières, il faut le faire au plus vite. Pour la même raison que Abraham. Parce que Zrizim Magdimim, c'est les gens qui sont zélés le font le plus tôt possible. Tout le problème, c'était chez Abraham, c'était pas Chayar justement, que ce soit lui qui se donne l'ordre de le faire. Sinon, il serait comme les idolâtres qui sacrifiaient leurs enfants. Donc même quand il a entendu, le seul moyen, c'était insupportable, inacceptable, etc. Mais finalement, bon, c'est pas lui qui l'a inventé.
Pourquoi on ne fait pas la brit mila alors avant la tfila?
Parce qu'il y a une halakha qui dit que quand on a deux mitzvot devant soi et qu'il y en a une qui est régulière et une qui est exceptionnelle, on fait la régulière d'abord. S'appelle Tadir, Vesheno Tadir, Tadir Kodem. Tadir, ça veut dire ce qui est tout le temps là, et ce qui ne l'est pas. Donc quand on a les deux devant soi, on fait Tadir, ce qui est tout le temps là. Et donc, pour revenir à la question initiale, qui était, comment se fait-il que nous disions Zman Matan Toratenu et pas Zman Kabbalat Toratenu, le temps de la réception, puisqu'on devrait dire, en ce qui nous concerne, nous on n'était pas en position de donner la Torah, nous on était les récepteurs. Alors la raison, avec ce qu'on vient de voir, c'est que les Bnei Israël veulent se rattacher à la Torah du point de vue de celui qui donne. Alors c'est ce travail-là, du point de vue de celui qui donne, c'est-à-dire sans aucune limite. Alors c'est vrai qu'entre-temps, à cause du Vaudor, on a perdu ce qu'on avait gagné à Dirnassé avant Nishma. On a perdu le niveau des premières tables de la loi, comme Thierry l'a dit, tout ça à cause du Chet HaEgel. Mais malgré tout, à Shavuot, cette acceptation-là, dont on a perdu le niveau après, mais cette acceptation, elle a laissé une trace, la trace que nous sommes les maîtres de la Torah. Les maîtres de la Torah. C'est assez énorme, n'est-ce pas? C'est la Torah, mais comme on dit, c'est la Torah d'Hachem. Mais quand Moshe Rabbeinu l'a reçu, c'est devenu Torah Moshe, Zichru Torah Moshe Avdi. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, dit Akadosh Baruch Hu dans le Navi. C'est-à-dire, au départ, c'est la Torah d'Hachem, et ensuite, c'est la Torah de celui qui l'a étudiée. Il y a une acquisition de la Torah. Et même si maintenant nous n'avons plus cette lumière, on n'a plus concrètement la lumière qu'il y avait au Sinaï, la lumière spirituelle, mais cette association du clan Israël et d'Hachem dans le don de la Torah, ça nous oblige encore. On doit veiller à être toujours associé à ce don. Et donc, parce que c'est de cette manière-là, lorsqu'on est associé au don, qu'on peut continuer de produire de la Torah. De produire à descendre encore plus de Torah que ce qui a été descendu avant, qui a été donné à son Sinaï. Et donc, parce que nous sommes effectivement maîtres donc, de ce Matan Torah, alors Rabbi Akiva avait la possibilité de dévoiler des choses qui concrètement n'avaient pas encore été dévoilées. Parce que cette racine de la façon dont on a reçu la Torah, dans la posture où on était aussi ceux qui la donnent, ça on ne l'a pas perdu. C'est concrètement, effectivement, on a perdu des choses. Les fameuses couronnes qu'on a reçues à cause de Nassé avant Nishma, etc. Mais cette idée que un jour supplémentaire ajouté par Moshe Rabbeinu, ça reste en quelque sorte. Et on a fixé en quelque sorte, ça veut dire que Shavuot, c'est pas le don concret de la Torah, parce que ça, on l'a perdu, d'une certaine manière. Mais c'est cet accès, justement, à la Torah infinie, ça, on l'a pas perdu. C'est vraiment Zman Matan Toratenu. Parce que quelque part, nous sommes les artisans de ce Matan Toratenu. La Gemara, elle rapporte, dans le Sefer Shabbat, que tout le monde est d'accord que la Torah a été donnée au clan Israël un Shabbat. Le jour du don de la Torah, c'était Shabbat. Le Maharal, dans son commentaire sur Pirkei Avot, le Maharal dit que c'est grâce à la Torah que le clan Israël est devenu un peuple. Nous n'étions pas un peuple. Quand nous sommes sortis d'Égypte, il n'y avait pas de peuple juif, ça n'existait pas. Au Sinaï, on est devenu un peuple. Le Maharal dit, c'est grâce à la Torah qu'on est devenu un peuple. Pourquoi ? Parce que en recevant la Torah, c'est cette idée de Chaye Olam Natab Tochenu. La vie de éternelle, enfin, elle a été implantée en nous grâce à la Torah. C'est-à-dire la réalité du Olam Abba, de ce monde à venir, de cette éternité, c'est-à-dire cette idée que dans ce monde-là, il y a de l'éternité, c'est la résultante de la Torah. Et donc, quelque part, quand on a reçu la Torah, il fallait que, enfin, cette Torah, elle venait nous donner accès à Olam Haba, si vous voulez, au monde à venir, à l'éternité, donc qui existe que par le monde à venir. Donc, comme vous savez, Shabbat, c'est Me'en Olam Haba. Le Shabbat, c'est un avant-goût du monde à venir. C'est-à-dire, grâce au Shabbat, on fait entrer le Olam Abba dans Olam Hazeh. Grâce au Shabbat, on fait entrer le monde à venir dans ce monde-ci. C'est-à-dire, le septième jour de ce monde-ci devient un jour qui a un goût dans l'Olam Abba. Sauf que, si on dit ça, alors, on ne comprend pas très bien. Ça n'est tombé Shabbat que parce que Moshe a ajouté un jour. Si Moshe n'avait pas ajouté ce jour, ça ne serait pas tombé Shabbat, évidemment. Mais puisque ça appartient à la Torah elle-même, cette histoire de Olam Haba, alors, de toute manière, même s'il n'avait pas ajouté un jour, seulement, d'après ce qu'on a expliqué, le dévoilement de Osif Yom Echad Midato, Moshe Rabbeinu a ajouté un jour de sa propre initiative, c'est la possibilité justement que nous puissions avoir accès à cette Torah éternelle, c'est-à-dire la Torah de Olam Haba qui est à la source. Donc, de ce fait, il y a deux Torah, si on peut parler comme ça, deux Torah. Il y a la Torah qui est, comme dit Chazal, Hayom la Asota, aujourd'hui, dans ce monde-ci, on doit appliquer la Torah, la faire. C'est-à-dire, il faut que la Torah se dévoile dans ce monde-ci. Il faut que la Torah se dévoile dans le plus concret possible. Exemple, je vais vous donner un exemple. Le fait qu'une grande partie de la Torah aujourd'hui ne soit pas applicable parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash, etc., parce qu'il n'y a pas l'Yovel, etc., si vous voulez, c'est un défaut de dévoilement de la Torah. Étant donné que les conditions matérielles n'existent pas, alors la Torah n'est pas dévoilée au maximum de ses possibilités, en fait. C'est pour ça que c'est important, si vous voulez. Donc de se demander dans chaque situation concrète, plus on a une situation concrète, plus c'est l'occasion pour la Torah de se développer pour arriver jusqu'à cette situation-là.
Mais le développement se fait par étude.
Oui, mais...
Donc même si on n'est pas dans le cas pratique...
Ça c'est seulement... Mais tu vois bien que si le cas pratique est là, on ne peut pas se contenter de l'étude. Quand le Beth Amikdash était là, on ne pouvait pas se contenter d'étudier les corbanotes. On était obligé d'en faire des corbanotes. Pourquoi ? Puisque c'est équivalent. Ça n'est équivalent que parce que c'est ça le degré de développement de la Torah. Donc, quand on peut faire les corbanotes, alors la Torah, elle va jusqu'à les faire. Jusqu'à nous dire de les faire. Quand on ne peut pas, la Torah, elle va jusqu'à étudier comment les faire pour être prêt à les faire dès que ce sera possible.
Mais par exemple, les corbanotes, c'est l'aspect fini de la Torah. Est-ce que l'étude, c'est l'aspect infini? Donc, le dévoilement, est-ce que ça ne touche pas à un aspect?
Non, mais je ne crois pas. Justement, l'aspect fini de la Torah, c'est on veut que cette Torah qui est infinie, elle aille jusqu'au bout des œuvres, en quelque sorte. Comme on veut bien que la vie dans le corps humain, elle aille jusqu'au bout. On ne veut pas que la vie, tiens, elle s'arrête, elle pourrait s'arrêter n'importe où. On veut qu'elle aille jusqu'au bout.
Mais est-ce qu'on peut dire que la Torah est voilée par opposition à l'évolution, ou est-ce qu'on ne pourrait pas le dire d'une autre manière? Je sais que ça n'a pas fait le discours, que c'est nous qui avons voilé.
Non, la Torah ne pouvant pas elle ne peut pas se réaliser concrètement parce que les conditions ne sont pas là, c'est un défaut, c'est un manque au niveau de la Torah. Alors c'est de notre faute. Il y a un degré donc plus important, plus élevé, qui est ce qu'on appelle Mahar le Kabel Sraram, c'est-à-dire demain pour recevoir le salaire de ce qui a été fait dans ce monde-ci, c'est-à-dire Olam Haba. Et grâce au fait que Moshe Rabbeinu a ajouté un jour supplémentaire, alors il y a dans le monde, dans ce monde-ci, la possibilité d'avoir accès à la Torah de le Mahar le Kabel Sraram. C'est-à-dire, cet accès à Olam Haba. Et c'est pour ça que la Torah, elle a eu lieu Shabbat, parce que Shabbat, c'est ce niveau de Mahar, demain pour recevoir le salaire, c'est-à-dire, le monde du salaire, c'est Olam Haba. C'est-à-dire, bien qu'on soit dans ce monde-ci, grâce au Shabbat, ou grâce au fait que Moshe Rabbeinu nous a donné accès à la Torah, infini, si vous voulez, grâce à cela, il y a du Olam Haba, il y a cette dimension infinie, ça implique que ce soit Shabbat, qui est le jour du Olam Haba. Bon. Parlez encore un petit peu de cette notion d'Alakha de Moshe Sinai, Alakha qui a été donnée à Moshe au Sinai. On a l'impression, donc, que la spécificité de la Torah de Rabbi Akiva, hein, c'est Alakha de Moshe Sinai. Puisque c'est ça que la Gemara nous raconte, ce qui posait problème à Moshe Rabbeinu et ce qui a rasséréné Moshe Rabbeinu quand Hachem lui a dit que c'était Alakha de Moshe Sinai. La Gemara, dans Tmura, elle rapporte que dans les jours de deuil qui ont suivi la disparition de mon cher Rabbeinu, on a oublié 3000 halakhot. C'était quelque chose d'assez tragique, parce qu'avant sa mort, mon cher Rabbeinu a appelé Yoshua, qui était son élève. Il lui a dit, voilà, je vais disparaître. Si tu as des questions, pose tes questions maintenant. Alors Yoshua a répondu, Moshe, mon maître, tu as écrit dans la Torah que je n'ai jamais quitté la tente d'étude. Je n'ai jamais été un seul instant absent du lieu d'étude. Donc, vous avez entendu, je n'ai pas de questions. Quand Moshe Rabbeinu a disparu, ils ont tous oublié, et en particulier Yoshua, 3000 halakhot. C'est marqué que le peuple a voulu lapider Yoshua. Et c'est Otniel ben Kenaz qui, par son pilpoul, par son travail dans l'étude, a réussi à les reconstituer. Il a retrouvé ses 3000 à la faute. Alors, le Rav de Brisk a expliqué lorsqu'on a une halakha qui vient du Sinaï, alors il n'y a aucun beddin, aucun tribunal, donc aucune autorité qui peut s'opposer à cette halakha et en dire quelque chose d'autre que ce qu'elle dit elle-même, cette halakha. Ça, c'est si on n'avait pas oublié complètement la halakha. Mais si la halakha elle-même a été oubliée, et c'est seulement le beddin, un beddin qui a réussi à retrouver cette halakha et qui l'a rétabli en quelque sorte. Alors, cette halakha-là, elle est comme les autres halakhot qui sont issues d'un chidouche qui a été dit par n'importe quel tribunal. Je dis tribunal parce que ça n'a rien à voir avec le jugement. Dans la Torah, le Sanhedrin, c'était à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. C'était eux qui produisait la Torah, peut-être c'est les Chachamim qui produisaient la Torah, et ça se discutait dans le Sanhedrin entre tous les membres. Alors, on appelle ça Beit Din, mais c'est pas, son rôle essentiel n'est pas de juger. Le rôle essentiel, c'est de produire la Torah. Donc un autre Beit Din peut très bien ne pas être d'accord avec celui-là. Et ils peuvent décider de faire comme eux pensent. Donc quand il a retrouvé ses halakhot, Otniel ben Kenaz, alors, est-ce qu'on peut appeler ça encore halakha le Moshe Misinaï? Est-ce que ces halakhot-là, elles n'ont pas perdu leur statut tout à fait particulier, à savoir on ne peut pas s'y opposer et on ne peut pas du tout les modifier, du fait qu'on les a oubliées, et elles ont été retrouvées, mais retrouvées de la même manière que les autres halakhot ont été inventées ou fabriquées. Alors, on savait bien quelles halakhot avaient été oubliées et on savait que ces halakhot-là, elles ont été reconstituées en quelque sorte. Donc pourquoi est-ce que, on peut dire, pourquoi est-ce qu'elles ont, elles n'ont plus leur din de halakha le Moshe Misinaï ou est-ce qu'elles l'ont encore? Alors, d'après ce qu'on a vu jusqu'à présent, on peut dire les choses de la manière suivante. La halakha de Moshe Misinaï, c'est que d'après les règles d'études, les règles herméneutiques et autres, qui nous ont été données aussi par la Torah chez Balpé, le fait qu'on puisse faire un Kal Vachomer, qu'on puisse faire une Gzera Shava, les règles de déduction, etc., Klaloukrat, etc. On ne peut pas accéder à la compréhension à la compréhension complète de la halakha. Au contraire, justement, cette halakha, a priori, elle contredit ce qu'on obtient par les voies ordinaires de déduction. Et donc tous les dinim qui ont été donnés sous forme d'Alakha Moshe Mitsinaï sont en quelque sorte irrationnels au sens où on ne peut pas avoir accès à ces lois-là en appliquant les règles qu'on applique au texte de la Torah en quelque sorte. C'est tous des... Ce n'est pas des choukim, mais c'est des choses qu'on ne peut pas discuter. On ne peut pas les infirmer ou affirmer, si vous voulez, avec les règles standards. Et donc, on est obligé de dire que cette désignation, de ce nom de Halakha Moshe Mitsinaï, c'est au-dessus de ce qui a été reçu effectivement au Sinaï. Concrètement, comme on avait expliqué, ça n'a pas, ça fait pas partie de la partie de la, de, pas partie de la Torah qui a été donnée au Sinaï. Seulement, elle nous a été transmise par Moshe Rabbeinu, comme si elles sont encore du côté du noten, de celui qui donne. Et dans ce monde-ci, on n'a pas accès à cela, on comprend rien. Donc, l'essence de ce qu'on appelle Halakha Moshe Mitsinaï, c'est que on a reçu la possibilité d'avoir accès à la lumière de la Torah qui est au-dessus de tous les processus de déduction, de travail, etc., de production de la Torah ordinaire. C'est tout ce qu'on a à disposition. Et puisque ça n'a pas été complètement dévoilé, d'accord, puisque, alors, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment les moyens d'accéder, de comprendre vraiment ce dont il s'agit. Alors, ce qu'on en connaît, c'est simplement, en quelque sorte, là, une toute petite pointe, on sait, voilà ce qu'on peut en faire. Quoi. Et là, on a fallu de faire ça. Pourquoi, comment, etc., j'en sais rien.
Vous
pouvez
donner un exemple.
On va voir après, un peu plus tard. Donc, tant qu'on a, à disposition une halakha qui évidemment nous rattache au Sinaï, et on a un tout petit peu de lien avec cette halakha, bien qu'elle soit essentiellement inaccessible. Mais quand ces halakhot ont été oubliés, ça veut dire qu'on n'a plus cet accès à cette lumière-là. Et quand Otniel Ben Knaz les a retrouvés, lui, il n'a pas pu les retrouver autrement qu'en utilisant ce qui avait été dévoilé de façon classique, ce qu'on avait vraiment reçu explicitement au Sinaï. Il n'avait que ça à disposition. Et donc, du coup, ce qu'il a produit, lui, ce ne sont pas vraiment ces halakhot-là. Parce que ces halakhot-là qu'on avait, qui sont halakha Moshe Mitsinaï, ces halakhot-là, elles ne sont pas accessibles par les processus standards. Donc, il y a essentiellement une différence. Donc, normalement, la halakha Moshe Mitsinaï, ce qu'on appelle halakha Moshe Mitsinaï, elle n'a plus ce caractère, puisque, enfin en tout cas, celles qui ont été reconstituées par Otniel Ben Kenaz n'ont pas le caractère d'une halakha Moshe Mitsinaï, son caractère indiscutable et intransformable, etc. Alors, bien qu'on dise qu'il les a reconstitués, Othniel ben Kenaz, mais elles ne peuvent pas retrouver cette ma'ala, cette qualité qu'elles avaient, à savoir, encore une fois, ce côté indiscutable. Et donc, d'une certaine manière, nous avons donc accès à ce qui a été dévoilé de la Torah. Et alors, c'est rien d'autre que ce qu'on peut produire de façon générale. Et du coup, on peut comprendre ces drachotes de Rabbi Akiva, qu'il a appuyé sur, comme on a dit, sur ces petites couronnes, sur les lettres, là. On dit, ces drachotes-là, elles font partie d'Alakha al-Moshe Mitsinaï. Pourquoi ? Parce que, c'est comme je vous l'ai expliqué, ces couronnes sur les lettres, on accède à des paroles de Torah qui sont au-dessus des lettres, en quelque sorte. Elles ne sont pas saisissables par les lettres. Ces notions-là ne sont pas saisissables, on ne peut pas les attraper par des lettres, puisqu'elles sont accrochées aux petites couronnes. Parce qu'il y a dans ces halakhot-là une part de cette Torah qui est, encore une fois, au-dessus des processus que nous connaissons de traitement de la Torah. Et c'est ça que ça veut dire que, quand on dit « ça n'a pas été dévoilé à Moshe Rabbeinu ». Mais la Kabbalah de Rabbi Akiva, ça consistait à aller les chercher dans ce qui était encore caché, en quelque sorte, de la Torah, dans la mesure où il a utilisé cet accès que Moshe Rabbeinu nous a forgé, en quelque sorte, en nous donnant la position du noten aussi, celui qui donne. Donc, bien que Moshe Rabbeinu, lui, il ne savait pas ce que Rabbi Akiva disait. Parce que ça n'a pas encore été dévoilé en son temps. Mais malgré tout, quand il a répondu à la question, Rabbi Akiva a répondu à la question, mais d'où tu sais ça? Il a dit, c'est Alakha al-Moshe Mitsinaï. Ça veut dire, je ne le sais que grâce à celui qui est le maître de la Torah, celui qui nous a donné la possibilité de dominer, si on peut parler comme ça, la Torah, puisqu'on voit la Torah du point de vue de celui qui donne, et pas seulement du point de vue de celui qui reçoit. On dit que Rabbi Akiva, il est le Av, il est le père de la Torah chez Baalpé. Et on dit que c'est parce que, à la suite de la destruction du Beth Amikdash, il y a eu une dégringolade dans la capacité de rayonnement de la lumière de la Torah. Et dans la mesure où ceux qui étudient la Torah littéralement brisent leur corps, et qu'il se maîtrise complètement, ce qui est un des moyens c'est ce dont on a parlé dans l'acquisition de la Torah. Alors, s'applique à ces gens-là le pasouk qui dit Ha'am ha'olchim b'chosher ra'u or gadol. Le peuple qui marchait dans l'obscurité, dans les ténèbres, a vu, ou ils ont vu, parce que ça a commencé au singulier, ça continue au pluriel. Raoult, ils ont vu une très grande lumière. C'est à C'est-à-dire, cette lumière, elle venait justement des ténèbres. Et de la même manière que Moshe Rabbeinu a ajouté un jour, de sa propre initiative, grâce à cet ajout-là, on a eu accès, comme j'ai déjà dit, à l'essentiel de la Torah. Lorsque la compréhension de la Torah, des paroles de la Torah, est descendue au niveau de Torah chez Baal Peh, c'est-à-dire que les hommes, au niveau où les hommes allaient fabriquer de la Torah, alors, par Rabbi Akiva, il y a eu ce dévoilement de la profondeur de la Torah, qui jusqu'alors n'était pas du tout accessible, n'était pas dévoilée. Et l'Yerushalmi dit explicitement, il amène des contradictions dans les versets. Il dit, au sujet de Moshe Rabbeinu, il est dit, « Atem nitzavim ayom » au début de Parashat Nitzavim, « Vous êtes là devant, vous tenez debout aujourd'hui, Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, Rachechem, vos chefs, Shiftechem, a priori ça veut dire vos tribus, peut-être vos chefs de tribu, Ziknechem, vos anciens, ça c'est sur Moshe. Sur Yoshua, dans le verset c'est marqué, Vayesof Yoshua et Kol Shifte Israël, Yoshua a rassemblé toutes les tribus d'Israël, Ashrem, et il va ykra les Zikne Israël ou le Roshav. Il a appelé les anciens d'Israël et ses chefs. Donc on voit que chez Moshe et Rabbeinu, Roshechem est dit avant Ziknechem. Rosh avant Zaken. Les chefs avant les anciens. Chez Yoshua, c'est le contraire. Les anciens avant les chefs. Et l'Yerushalmi dit, finalement, Moshe Rabbeinu, étant donné qu'il n'a pas eu besoin de se fatiguer dans l'étude de la Torah, c'est comme ça que l'Yerushalmi pense, alors il a dit Rachim avant Zkenim. Yoshua, qui a eu besoin de se fatiguer à l'étude de la Torah, il a dit Zkenim avant Rachim. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu par rapport à Yoshua, c'est la Torah chez Bichtav, Moshe Rabbeinu, par rapport à la Torah chez Baal Peh. Alvana, vous savez bien que Moshe Rabbeinu compare au soleil et Yoshua à la lune. La lune, elle reçoit. Donc on voit ici, on a vu plusieurs fois que la Torah chez Baal Peh, c'est en fait, c'est que ce qui nous empêche de l'étudier, cette Torah chez Baal Peh, ce qui nous empêche va être en quelque sorte associé à la Torah elle-même. C'est ça que, c'est comme ça qu'il l'entend, c'est ça qu'on a voulu dire, Naasé avant Nishma. C'est-à-dire que les Bnei Israël sont arrivés à la compréhension que finalement, le corps, la matière, qui est le contraire de la Torah, c'est En Od Milvado, il n'y a rien d'autre. Et donc dans la Torah chez Baal Peh, les efforts, on a expliqué que Rachel Baal Peh, c'est le monde du Hamal. On va lire là dans Bechukotai, une semaine. J'ai dit, ou Amelim Batorah, on est obligé de faire des efforts dans la Torah. C'est des choses qui, en fait, coûtent du point de vue, c'est des efforts qui brisent le corps, en quelque sorte. Et qui vont transformer la matière en Torah. Mais dans la Torah chez Birtav, bien sûr, on ne peut pas du tout avoir de contact, de relation avec la Torah sans un certain travail. Mais les efforts, en quelque sorte, ne sont pas vraiment associés à la Torah. Simplement, c'est des conditions pour y arriver, mais ça ne devient pas une partie de la Torah, quasiment. Et c'est ce qu'on dit ici. Moshe, qui, lui, ne s'est pas fatigué à l'étude de la Torah. C'est-à-dire, son niveau de Torah, hein, c'est Torah chez Balpé. C'est-à-dire, en fait, les problèmes du corps, oui, il les avait réglés, en quelque sorte, mais ça jouait aucun rôle. Mais chez Yoshua, ça jouait un rôle, et du coup, les efforts deviennent une partie de Torah. Et maintenant, il n'y a pas d'effort. C'est Torah chez Birtav. J'ai dit Balpé. Excusez-moi, il faut corriger Torah chez Birtav. Et il faut comprendre néanmoins pourquoi la Torah chez Balpé, le niveau Torah chez Balpé s'exprime en disant Zekenim d'abord et Rachim ensuite. Le Rambam explique dans le Pirush HaMishnayot qu'est-ce que c'est que la qualité particulière du Zaken, l'ancien. Il dit quand Rabbi Elazar ben Azaria dit « Areani kven shivim shana » alors qu'il était jeune et qu'il avait énormément étudié jour et nuit, au point que il avait quasiment plus de force. Et donc, il était comme un vieillard à la suite de son étude. Il avait, comme il dit, je suis comme quelqu'un qui a 70 ans, peut-être qu'il en avait 18. Dans la Mishnah, on dit que Rabbi Elazar ben Azaria, ce qu'il a dit, c'est quand il dit, il veut dire par là, bien que j'ai, je sois comme quelqu'un de 70 ans, et que pour cette raison, je pourrais imposer qu'on dise Yetziat Mitzrayim Balelot. Vous vous souvenez, c'était la question, est-ce que on mentionne la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le troisième paragraphe du chemin, la nuit? Néanmoins, je n'ai pas réussi à l'imposer. Il semble que le Rambam veuille dire ici comment c'était, en quelque sorte. Il avait l'air, il était comme quelqu'un qui avait 70 ans, et il a voulu dire c'est arrivé parce que comme suite de son travail dans la Torah. Donc en réalité, il devrait être au niveau de quelqu'un qui a 70 ans. Et pourtant, il n'a pas réussi, donc il devrait être considéré comme un vieillard, et sa parole devrait faire autorité. Alors, sur Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, il dit d'abord Rachim, puis après Zkenim, les chefs, et après les maîtres, les anciens. Contraire chez Yoshua. Parce que Yoshua, qui a beaucoup travaillé dans l'étude de la Torah, eh bien, tous les efforts qu'il a faits se sont associés en quelque sorte à sa Torah. Et donc, lui, on pourrait dire, quand les efforts s'associent, donc c'est là, il est arrivé au niveau de la zikna, au niveau de la vieillesse. Il dit que quand les efforts pour Moshe Rabbeinu ben Azaria font de lui un vieillard, alors Yoshua, ils disent Kenim d'abord, parce qu'il apprécie son effort à lui, il comprend mieux les Kenim que les Rachim. Pour lui, c'est plus important parce que c'est la résultante des efforts. Chez Moshe Rabbeinu, lui, il pensait que c'était important, les chefs doivent être doit être mentionné d'abord. Parce que lui, il n'y avait pas cet effort qui était associé, l'effort qui produit pour étudier ne devient pas quasiment une partie de la Torah qu'on a apprise. Après, on a vu ici, quand on dit la fameuse lumière, la grande lumière, elle vient de l'obscurité. C'est-à-dire, l'obscurité, elle a produit la lumière. C'est comme si cette obscurité, elle était associée à la lumière. On pourrait dire, c'est dans ces conditions absolument insupportables que les Chachamim ont produit ce qu'ils ont produit. Le clan d'Israël, d'ailleurs, tout ce qu'on a produit, tout ce que vous voyez ici, tout ça, ça a été produit en galoute. Tout ça, ça a été produit souvent dans des conditions incroyables de pauvreté, de persécution, de massacre, etc. Par rapport à ce qui a été produit lorsque le clan d'Israël était en paix, lorsqu'il était... C'est bien plus important, bien plus grand. Alors, Rabbi Akiva, justement, il est cette lumière qui est produite par les souffrances, en quelque sorte. Et ça donne un peu d'explication à ce que mon cher Rabbeinu, quand Hachem lui a montré les souffrances de Rabbi Akiva, les tortures de Rabbi Akiva, mon cher Rabbeinu a crié au scandale. Et Hachem lui a dit, tais-toi. Kachala bemarshava. C'est monté comme ça à ma pensée. Tais-toi. Je toque.
Pourquoi il lui a montré alors?
Non, il lui a montré parce qu'il l'a demandé. Mais il lui a dit, j'accepte pas que tu... Ça veut dire en fait... Tais-toi, c'est-à-dire tu ne sais pas de quoi ça cause, en quelque sorte. Et on comprend bien qu'il ne savait pas de quoi ça parlait, puisque lui, il était du côté des Rachim, et pas des Skenim. Et Rabbi Akiva est du côté des Skenim, c'est-à-dire Rabbi Akiva, il est du côté où la Torah, elle est la résultante du Hamal, de l'effort, et l'effort est nécessaire, et en quelque sorte, cet effort, il vient s'ajouter. L'effort, la souffrance, les conditions insupportables viennent s'ajouter à la Torah. Donc mon cher Rabbeinu qui, lui, il n'a pas, pas travaillé de cette manière-là. Lui, c'est sûr qu'il a dû travailler pour apprendre la Torah, mais ce n'est pas devenu partie de la Torah. La Torah chez Birtav, elle est là, elle est telle qu'elle est. Alors il faut se qualifier pour y avoir accès, mais c'est tout. On n'en a pas plus parce qu'on a travaillé, en quelque sorte. C'est où tu l'as ou tu l'as pas, en quelque sorte. Toi, chez Birtav, bon, on te la donne, telle qu'elle est. Elle est formatée, si vous voulez. Toi, chez Baalpé, plus tu travailles, plus tu en dévoiles. Et donc, quand mon cher Rabbi nous dit quelque chose, un scandale, il dit un scandale parce qu'il se place de son point de vue, tel que lui comprend les choses. Et Hachem lui dit, tais-toi, en quelque sorte. Moi, j'ai pensé comme ça, c'est-à-dire, tu peux même pas comprendre de quoi on parle. Mais c'est juste que mon cher Abedou était scandalisé par la souffrance. Parce qu'on ne peut pas rester spectateur d'une telle souffrance. Mais mon cher Abedou, non seulement il a éprouvé de la compassion, etc., mais il a remis en question le tzedek de la décision divine, la justice de la décision divine. Il a crié à l'injustice. Hachem lui a dit, c'est toi. L'injustice, c'est pas dit explicitement, mais d'après ce qu'on a compris ici, tu parles d'injustice, mais avec quoi tu mesures la justice et l'injustice? C'est-à-dire, pour produire ce que Rabbi Akiva produit, il faut être à ce niveau-là où il se... Comme il a répondu à ses élèves, et toute ma vie, je me suis demandé quand est-ce que je pourrais servir Hachem, comme on dit, aimer Hachem, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol modecha. Bechol nafshecha, c'est-à-dire, afilu, ou notel et nafshecha. même si on te prend ton âme, tu dois l'aimer. Il dit, j'ai attendu toute ma vie pour accomplir cela. Pour lui, ce n'était pas des paroles vaines. Et maintenant que ça arrive, vous voudriez que je fasse quelque chose pour m'en libérer. Il aurait dû faire quelque chose, mais il ne veut pas. C'est une façon de... Ce n'est pas l'important et pas ce qu'il aurait dû... L'important, c'est ce qu'il dit ici, c'est que cette souffrance, cette obscurité, ces ténèbres, ce rocher, c'est ce rocher-là qui a produit la lumière. C'est-à-dire, au fond, c'est un peu difficile à dire, mais peut-être que on ne peut pas produire ce qui a été produit par les générations précédentes dans une situation où tout va bien, situation d'abondance, etc. Ce n'est pas une recherche de la difficulté. Mais c'est ça, la Torah, hein, produire, que les hommes puissent produire la Torah d'Hachem. C'est ce que nous faisons, c'est ce qu'ils ont fait, et nous on essaie aussi de le faire, que les hommes puissent produire la Torah d'Hachem, c'est tellement impensable que ça doit passer par l'annulation complète du corps, des valeurs du corps, etc. Donc c'est pas qu'ils recherchaient à souffrir, ils recherchaient à être totalement détachés, mais pas dans l'indifférence, à être totalement détachés de ces valeurs. Parce que c'est ce détachement des valeurs du corps, etc., qui ouvre, en fait, qui ouvre l'accès à la Torah infinie. À Olam Haba, si cette Torah infinie, elle a la statue de Olam Haba, dans Olam Haba, il n'y a pas de corps. Et donc, faire en sorte que dans ce monde-ci, il n'y ait pas de corps, c'est-à-dire, c'est prendre une distance, la distance maximale avec le corps. C'est ça qu'il leur a répondu. Je sais pas. C'est pas du tout une recherche. C'est pas de l'ascétisme, c'est au sens direct.
Excusez-moi, vous êtes en train de dire que ça ne passe que par la souffrance.
Oui, c'est des choses. Cette Torah-là, elle ne passe que par. Au niveau de Rabbi Akiva, ça passe que par la souffrance. Mais ce n'est pas la souffrance en tant que telle. C'est l'annulation du corps.
Il est à Israël depuis 3000 ans.
Oui. Mais alors, c'est pour ça qu'on a produit ce qu'on a produit. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on l'a recherché. Mais ce n'est pas étonnant, si vous voulez, que ça ait été produit dans ces circonstances-là. Sinon, on devrait s'étonner. Comment se fait-il que c'est justement dans les moments où les gens n'avaient rien, il était en but aux souffrances, aux persécutions, aux massacres, tout ce que vous voulez. Les Rishonim, ils ont produit ce qu'ils ont produit pendant les croisades. D'accord ? Ces espèces de cinglés, ils se baladaient dans la vallée du Rhin et ils détruisaient des communautés entières. Hommes, femmes, enfants. Et c'est à ce moment-là, dans ces moments-là, qu'on a produit les choses les plus énormes de la Torah.
Il n'y a pas un paradoxe quand même qui est incompréhensible, enfin, je sais pas, pour moi personnellement, c'est que chacun aspire à, comment dirais-je, à voir ses enfants grandir, dans Shalom.
Mais c'est juste.
Et là, on est en train de dire, ah non, là, c'est pas possible.
Mais Rabbi Akiva, il n'est pas allé chercher ça. Il n'est pas allé chercher ça. Mais voilà. Il s'est trouvé dans cette situation-là et il a interprété ce qui lui arrivait, non pas comme une injustice flagrante, comme de la torture, etc., pour le plaisir de me torturer. Il ne s'est pas occupé de savoir les sadiques en face, quelle jouissance ils avaient à le...
Ce
n'est pas son problème.
Mais non, c'est le processus qui est en train de tel que vous le décrivez.
Mais
difficile à...
Oui, bien sûr qu'il est difficile. Moi, l'idée que c'est facile.
Mais question sur Avicca. Quand Avicca lui dit que toute sa vie a cherché cette souffrance, est-ce que pour lui c'est une.
Attends, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit?
Pour Avicca.
Oui, ensuite. Il n'a pas cherché, n'est-ce pas? Il n'a pas cherché. Quand la chose est arrivée, on lui a dit tu peux t'en sortir. Il a dit c'est pas mon problème, c'est pas ça. Cette situation-là, elle m'est donnée, et le but c'est pas de s'en sortir. Le but c'est de le vivre convenablement. Et lui, il a jugé qu'il était capable de le faire. N'importe quelle personne qui est dans cette situation n'est peut-être pas du tout capable de le prendre comme ça. Et donc, tout ce qu'on va faire, si on peut s'en sortir, on va s'en sortir. Il ne s'agissait pas de... Il fallait faire un miracle pour s'en sortir. C'est pas qu'il pouvait le faire comme ça. Il suffisait de dire aux gens, écoutez, laissez-moi partir. Il était condamné à mort, condamné à être supplicié par torturé par les Romains, parce qu'il avait enseigné la Torah.
Ouais. La question c'est vrai, est-ce que pour un médiva c'était rentré dans le cadre de cerveau de Hachem, ou est-ce que cet événement-là, ça rentrait plutôt dans le cadre d'une connaissance, d'une chorma particulière, additionnelle qu'il a... Comment ça se passait? Parce qu'on a l'impression, moi je dirais plutôt c'est le cerveau de Hachem, enfin, c'est sa façon de servir Hachem, et qu'il l'améliore. Est-ce que, peut-être que ça rentre plutôt dans le cadre de la chorma, une connaissance...
J'entends pas dans ce qui est dit que Rabbi Akiva ait répondu que ça lui ouvre des horizons nouveaux dans la connaissance.
Parce que c'est chita par Rabbi Akiva, c'est ça. Il met de la Torah dans la Torah, chez la paix, donc c'est lui qui recherche la Torah, c'est la Chorma. Donc ça serait plutôt, ça tendrait plutôt à dire que ça irait dans le sens du cerveau de Hachem, donc il a.
Oui.
Et donc pas dans plutôt dans la chorma, donc ça c'est la.
Mais ça serait la chorma de quoi?
De ce qu'il a développé toute sa vie, de façon.
Oui, mais pourquoi maintenant là il est en train de vivre quelque chose.
Oui, mais est-ce que ça rajoute des choses dans sa chorma qu'il a développé dans la Torah ou pas, cet événement-là? Et sinon ce serait pas le même qui va, on n'a pas le même qui va, alors regarde la casquette à votre tâche. Hein.
Je ne sais pas si. Je ne sais pas s'il y a deux casquettes. Je ne pense pas qu'il faille faire une différence entre son étude et sa voilà ta chaîne. Je ne sais pas faire cette différence.
Pas trouvé de façon sur le chemin de processus.
Non, si les autres, sinon les autres aussi auraient pu le trouver.
Ils n'ont pas le même statut que les Anachot qui ont été retrouvés, donc les 3000 qui ont été retrouvés.
C'est ça, c'est ce qu'on a essayé d'expliquer.
Mais alors, comment il les a retrouvés?
C'est justement. Il ne les a pas retrouvés. Enfin, il a eu accès parce que Moshe Rabbeinu a ouvert la porte, en quelque sorte. Lui, Moshe Rabbeinu, il a fabriqué ce lien avec la Torah infinie.
Oui, mais on a
et lui, Rabbi Akiva...
On a dit que ce lien permettait justement de construire la Torah... Enfin, oui, de construire, travailler la Torah chez Alpé.
Oui, mais de deux manières. Il y a deux manières. Il y a pas seulement ce lien, parce que la Torah qui nous a été donnée, elle est venue avec une Torah chez Alpé, avec toutes sortes de règles qu'ils ont effectivement développées. Et... Peut-être que je donnerai. Dans la Gemara qu'on avait étudiée, il y a plusieurs reprises, Rabbi Akiva dit des choses, et ses collègues lui disent arrête de parler ici, c'est pas ton truc, va t'occuper de Negaïm et Aolot. Va t'occuper des questions de Negaïm, de lèpre, des questions d'impureté, des trucs très techniques. Plus ou moins tout le monde explique en disant que c'était pas son fort, Rabbi Akiva, le problème Parce qu'il a dit un jour que des psukim, il ressort qu'il y a deux trônes. Et lui, il a dit qu'un trône, c'était pour un Kadosh Baruch Hu, puis un trône, c'est pour les hommes, pour le roi, pour le Shia, pour le roi. Il dit, c'est un scandale de les mettre l'un sur le même plan l'un que l'autre. Va t'occuper de Negaim Vaolot. J'avais expliqué en son temps, hein, il me semble qu'il faut le lire autrement. Il faut lire que Rabbi Akiva, c'est quelqu'un qui a une puissance de pensée que les autres n'ont pas. Et donc, quand il dit les choses sont tellement énormes. C'est pas que c'est pas son fort. Il dit des choses et il n'a pas peur de les dire, lui. Même si c'est choquant, même si on ne comprend pas comment c'est possible de dire des choses pareilles, c'est comme ça. Et les autres lui disent, tu ne peux pas le dire, c'est des choses qu'on ne peut pas dire sur la place publique, ce que tu dis là. Tu dis des tellement grands chidushim, si tu les dis dans Negaim et Aolot, dans les problèmes techniques, personne ne comprendra rien, le peuple en tout cas ne comprendra rien à ça, donc ce n'est pas dangereux. Parce qu'il n'y a que les initiés qui comprendront quelque chose, donc ce n'est pas dangereux. Mais si tu dis des choses que tout le monde peut comprendre, enfin, où tout le monde croit pouvoir comprendre, mais c'est tellement scandaleux qu'ils vont en perdre tout leur hébreu, bon, ben, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas que tu dises ça. Et ceux qui lui disent ça, en général, c'est ceux qui sont plutôt des responsables communautaires, enfin, pas communautaires, mais des responsables du peuple, qui ont des positions. Ils comprennent qu'on ne peut pas tout dire. Rabbi Akiva, lui, il avait peur de rien. D'accord. C'est, il y a un mur, ben, lui, il continue. C'est, peu importe. C'est tellement fort, il a une telle puissance qu'il peut dire des choses que les autres n'arrivent pas à comprendre. Et je pense que Rabbi Akiva, hein, ce qu'il a réussi à faire, c'est par par son étude. Il est quand même celui qui a produit les plus grandes écoles. Ça n'a pas marché, mais il avait quand même pas mal d'élèves, d'accord ? Il avait 24 000 élèves. C'est quasiment c'est une bonne université, l'Avdil, je veux dire. 24 000 élèves, c'est pas mal. Ils sont tous morts, mais enfin bon. Parce qu'ils n'arrivaient pas vraiment à être à ce niveau-là, mais... Donc c'est celui qui avait une puissance fabuleuse. Donc c'est cette puissance, avec sa Siyat HaShemayim, sa Tzidkut, sa Avodat Hashem, etc., qui a fait qu'il a eu accès, lui. Il a su comment utiliser l'ouverture que Moshe Rabbeinu a faite. Peut-être que ça n'a été possible qu'avec le travail qui a été fait en amont, avant lui. Que lui, il a appris tout ce que les autres ont fait, etc., et il a pu aller plus loin, et ça j'en sais rien. Je n'ai jamais vu quelconque explication dans ce sens-là. Mais visiblement, il est arrivé à avoir accès à cette Torah infinie. Comment je ne peux pas vous le dire, sinon je serais Rabbi Akiva.
Mais il est mort jeune, le roi, là
est... Non, 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 pas du tout.
Ah, pas du tout.
Non, 120 ans.
Pardon ?
120 ans.
Ah oui, faut
aussi. Il a commencé à 40.
Ah, mais c'est le contraire.
Mais qui lui donc a réussi à reconstituer et à la preuve qui avait été donnée à Moshe justement mi-finale, lui n'était pas constitué.
Lui, il n'est pas allé les chercher là-bas. Alors, ce que je ne comprends pas très bien dans cette affaire, c'est comment est-ce qu'on peut retrouver ces halakhot qui sont halakhot le Moshe mi-Sinaï en partant et en utilisant des procédures qui sont de la Torah qui a été dévoilée, si en fait ces halakhot-là, elles viennent d'un endroit non dévoilé. Comment est-ce que c'est possible? Alors, c'est pas toutes les halakhot le Moshe mi-Sinaï. Mais qu'est-ce qu'elles avaient, ces halakhot le Moshe mi-Sinaï? Est-ce que c'était les fausses halakhot le Moshe mi-Sinaï? C'est pas les vraies halakhot le Moshe. Parce que je comprends pas, c'est une contradiction, si vous voulez, c'est on n'est pas sur le même plan. Ce qu'on peut déduire avec les règles de Pilpoul de Otniel Ben Kenaz, c'est tout ce qu'on peut produire avec les règles. Mais si on peut obtenir aussi la Torah cachée, bon, elle est plus cachée.
Oui, mais justement, vous avez dit qu'elle n'avait plus le statut.
Elle ne l'a plus eu une fois qu'on l'a retrouvée. Mais que ça veut dire qu'il a retrouvé ses halakhot, c'est pas les mêmes alors. C'est pas seulement qu'elles avaient pas la même qualité, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y aurait un contenu de ces halakhot qui aurait pas la même qualité. C'est comme si ces halakhot, elles existaient de deux manières. Si vous voulez, dans le sur le mode Torah infini et sur le mode Torah fini, en tout cas certaines d'entre elles. Accessible par le pitpool, ça c'est, ça c'est le mode Torah fini, mais inaccessible dans leur dimension. Le message, je ne sais pas ce que ça veut dire.
Juste ce que j'ai bien compris, les halakhot de Rabbi Akiva, en qualité, sont supérieures à les 3000 perdus de.
Semble-t-il, oui. En statut, c'est-à-dire elles sont supérieures.
C'est pas un problème de clavier administratif, donc,
Je ne comprends pas. C'est difficile à dire, c'est à la fin.
De toute façon, on parlait, c'est peut-être un point technique, si on peut parler de technique, mais parler de Torah infini et d'accès à la Torah infini qui serait donc.
Si vous voulez, deux sortes d'infini, si vous préférez.
Oui, oui. Et par ailleurs, vous avez ramené donc cette Abkol et à qui on a répondu que.
Dans ce monde-ci, on ne s'en occupe pas.
La Torah, voilà, n'est plus au ciel.
Parce que ça, quand ça fait l'objet de discussion, ça veut dire que ce n'était pas une halakha de Moshe Sinaï. Sinon, ils n'auraient pas discuté entre eux. Mm-hmm. À tout le moment où ils ont discuté, c'est qu'il y avait un consensus que ce n'est pas une halakha de Moshe Sinaï. Donc, comment s'ils commencent à discuter sur ce tanneau, sur ce four-là, pour savoir s'il est tamé ou pas, d'accord. Si on en discute, si on peut en discuter, c'est que ce n'est pas une halakha de Moshe Sinaï.
Et la
batkol,
ça vient
d'où? Non, alors la batkol, elle vient justement dire, elle a voulu se mêler, en quelque sorte, par kavod pour Rabbi Eliezer. La Batkol a voulu leur dire, mais la halakha est comme Rabbi Eliezer, arrêtez de discuter. Rabbi Yehoshua a dit, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est nous qui décidons, pas toi. Ce que juste pour donner peut-être une piste sur cette histoire-là, j'ai l'impression que cette Torah infinie, cette dimension infinie de la Torah et la dimension finie, c'est pas que c'est deux choses complètement distinctes. C'est que il y a une partie dévoilée de la partie infinie. Et donc, celle qu'on appelle Halakha le Moshe Sinaï, c'est comme si elle était dans sa forme idéale. Et puis elle a une forme, disons, dégradée au sens où on utilise l'expression d'une énergie dégradée, par exemple. Une énergie qui ne soit pas aussi énergie dégradée, par exemple, la chaleur, par rapport à une énergie plus élevée, c'est la même chose, simplement c'est dégradé. Et donc peut-être que ce que lui, nous, cette halakha-là, elle avait été donnée comme halakha de Moshe Sinaï dans sa forme idéale. Elle a néanmoins été donnée. D'accord ? Mais elle a été donnée en préservant la forme infinie, quoi, quelque part. C'est-à-dire, je te le dis, mais tu ne peux pas discuter. Et puis, il y a aussi cette même halakha, elle peut être dite en énergie dégradée, si vous voulez. On a le même contenu, mais à une dimension, enfin, moins parfait, moins, plus concret, plus ras des pâquerettes. Et c'est ça que Othniel Ben Kenaz a retrouvé. Mais il n'a pas retrouvé la forme qu'avait la chose qui nous avait été dévoilée. Tout en préservant sa forme infinie, quoi. Bon, c'est pas. Ça doit être encore un peu élaboré, je vous laisse le faire.
Il y a un peu de ça dans le
Tzimtzoum. Le Tzimtzoum, c'est une démarche d'Hachem. Ça, c'est pas. Lui, il a enlevé complètement les choses. Bon, alors, voilà. Le Midrash. Sur lequel on va travailler, c'est le chapitre 49 du Bereshit Rabba. Donc c'est un midrash qui parle d'Avraham Avinu, évidemment. cet endroit-là. Et c'est... C'est un midrash qui parle de la position d'Avraham Avinu au moment de, où Hachem lui dit qu'il va aller détruire Sdom. Et il y a ce qui m'avait intéressé ici, c'est que il y a un enseignement qui dit, vous savez, on dit qu'Avraham Avinu, il a accompli la Torah, il respectait toutes les halachot, y compris les Eruvé Hatzerot, etc. Et il y a un pasouk qui dit que Akadosh Baruch Hu, il n'arrête pas de changer les halachot. Je veux savoir exactement, c'est-à-dire, il disait que En Yom Vayom, il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de jour où Hachem n'invente pas, ne renouvelle pas une halakha dans le monde, dans le tribunal d'en haut, donc dans la yeshiva shel mala. Et je voulais essayer de savoir qu'est-ce que ça voulait dire, parce que le midrash dit Afilu otan halakhot haya Avraham yodea. Même c'est à la chôte que Moshe, que Akadosh Baruch Hu renouvelle en permanence, même ça, Avraham Avinu le savait. Non seulement il savait tout ce qui se passait, mais ça il le savait, et c'est dit sur le, dans la suite de ce que, parce qu'à Sdom, au sujet de Sdom, Hachem dit, est-ce que je peux ne pas dire à Avraham, qui va devenir un très grand peuple, que je vais détruire Sdom? Donc, ça veut dire, il faut faire connaître les choses à Avraham. Et donc, du coup, le Midrash dérive et il va dire, même les halakhot qu'Hachem renouvelle, dans, je ne sais pas encore ce qu'on va en dire. Et je vais travailler un petit peu sur ce Midrash, qui n'est pas très loin non plus de notre sujet. Là, c'est aussi des choses qui se... une Torah qui se joue dans le ciel, etc. Bien qu'en réalité, on dise que Kadosh Baruch Hu, dans sa yeshiva, il dit... Meir Beni Omer Kar, ou Akiva Beni, dit comme ça, etc. Donc la Torah qu'on apprend au ciel, c'est la Torah que les hommes produisent. Mais ici, on dit qu'il y a aussi des halakhot qu'Hachem renouvelle. Je voudrais bien savoir ce que c'est. Je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est de ça qu'on va parler. Ah non ? Voilà.
Il y aura d'autres chirurgies de préparation Shavuot, sinon ?
Alors, oui, je veux bien faire un chiot. Le quand? Oui, peut-être on pourrait faire lundi. Attendez, combien de lundis il reste? 3 lundis, c'est ça? Combien de lundis va nous rester?
16, 23, 30,
oui.
3 lundis.
3 lundis. On fait deux cours. Vas-y, là, qu'est-ce que vous dites?
Trois. Un maximum.
Ah oui.
Trois. On fait trois cours lundi, alors. Donc on fera le lundi. Les trois lundis qui viennent, on fera cours sur Shavuot. Et jeudi, on fera cours sur le Midrash, Shemir Tzachem. Bon, puisque les gens sont là, a priori, on va changer pour le cours de lundi et jeudi, on va changer de Maseret. C'est un peu trop difficile de faire Yevamot. Et je pense qu'on va faire Brachot. Sauf si quelqu'un s'y oppose. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non, peut-être que vous voulez que quelqu'un veut faire autre chose. Bon, qui ne dit mot consent. Alors, on commencera ce lundi, Mirti Hachem. Brachot. À 20h, Brachot. À 21h, Shavuot. Et jeudi, à 20h, Brachot.
Et
à 21h, Midrash.
C'est quel Midrash
on essaiera avec...
Midrash 49. Chapitre 49 du Midrash Rabbah.
C'est quel Midrash?
C'est Vaïra.
Je dis, c'est quoi le Vaïra? Pareil, un peu une heure. Mais ton cours démarra,
allez, je dis. C'est maintenant que je dis. Ça va, ça va.
Ça a l'avantage d'avoir une traduction dans ce 49, il est encore là-dedans.
Oui, mais de toute façon, maintenant, il y a le deuxième tome.
Ah oui,
bon, je ne sais pas si elle est aussi bonne comme
si
ça.
Si vous le trouvez, achetez-le pour le Beth Amidrash, s'il vous plaît. Je le fais. Prenez une facture et je vous... Non, je...
Je prendrai la semaine prochaine l'alimentaire.
Oui. Je vais